We would like to greet everybody on this morning, the day of the Lord.
Nous aimerons saluer tout le monde ce matin qui est le jour du Seigneur. C'est un moment où on peut entendre que quelqu'un nous parle. Ce n'est pas le seul moment qu'il nous parle. Il nous parle aussi dans nos moments seuls avec lui lorsque nous lisons la Bible. Et aussi lorsque nous passons du temps en prière. Mais il y a aussi quelque chose d'autre lorsque deux et trois sont assemblés pour le louer et pour l'adorer et pour avoir une communion avec lui. Ce matin, lorsque je me suis levé, je me suis dit en moi-même, alors quel privilège! Paul a dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre et Christ a vaincu ses pouvoirs, ses autorités et ses principautés. Et ses pouvoirs ne peuvent rien faire loin de lui, caché de lui. Il n'est pas seulement Dieu qui peut qui voit ses principautés ou qui peut nous guider dans cette vie, mais c'est aussi un Père qui nous donne à toi et à moi le pain quotidien. Notre pain quotidien physique. Il est le Dieu qui est en charge des dirigeants, des gouvernements. Il contrôle un gouvernement puissant comme le gouvernement romain, alors qu'en ce temps-là, il avait dirigé même la naissance de son fils. Quel privilège avons-nous, chers amis, que nous ayons ce matin des oreilles pour entendre ce qu'il veut nous dire. Chers amis, écoutez attentivement. C'est une affaire de mort ou de vie pour vous et pour moi. C'est une question de vie ou de mort. Il peut nous donner des informations vraiment très critiques, importantes pour que nous survivions pour cette semaine prochaine. Mais avant de passer à la parole de Dieu, la chorale va d'abord chanter. Après quoi, nous aurons une annonce. Vous voyez que j'ai ce petit bout de papier ici qui est une annonce. Ici, c'est pour m'aider pour que je ne dise pas les mauvais noms. C'est une annonce des prochaines fiançailles. Je ne vais pas annoncer la date ou quoi, mais je vais annoncer juste les noms des personnes qui vont se fiancer. Oui, la date de leur fiançailles, nous allons vous annoncer un peu, on va l'annoncer un peu plus tard. C'est les fiançailles de Samuel Ludwig et Emeritif. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ce privilège merveilleux qui est au-dessus de tous les privilèges, de ce que nous pouvons être assis à tes pieds. Nous te prions, Seigneur, afin que ce qui est sur ton cœur, peu importe ce qui est sur ton cœur, que tu te sentes libre ce matin pour nous le dire. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu nous guides. Nous sommes aveugles et pauvres sans cela. Et Seigneur, nous te prions afin que tu continues à utiliser ce jour pour la gloire de ton nom. Bénis le message à travers les chants. Et s'il te plaît, bénis aussi la lecture de ta parole. Nous te le demandons au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Sans tarder, la chorale va s'avancer pour chanter. Après ça, nous allons écouter la parole de Dieu. Chanter deux chants pour vous, le premier en anglais, le deuxième en zoulou, et il dit, jeune femme, jeune gens, c'est cette chose, la Bible, qui nous a sorti de notre méchanceté de péché, qui nous a porté dans une nouvelle vie, père, mère, c'est seulement par la parole de Dieu qu'on a pu sortir de nos péchés.
Glorious is thy name, O Lord. Thank you very much to the choir.
Merci beaucoup à la chorale.
Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait, en particulier en ce moment. Je ne pense pas que vous pouvez vous imaginer combien le Seigneur est à l'œuvre. Et même quand il y a les forteresses du méchant, il les secoue complètement. C'est merveilleux de savoir que les jeunes gens décident d'emprunter, de marcher le chemin de la sainteté. Vous savez, je suis reparti en arrière dans ma pensée il y a plusieurs années, en arrière lorsque j'avais 16 ans. Vous savez, jeunes gens, ne perdez pas les occasions que vous avez, ne perdez pas votre temps. Vous savez, à l'âge de 16 ans, et même avant, j'ai prié et j'ai recherché la face du Seigneur. Je voulais savoir ce que Dieu avait pour moi. Ce n'est pas seulement le seul moment qu'il avait parlé. Parce que certaines personnes entendent la voix du Seigneur à certains moments de la vie quand eux-mêmes ils veulent vraiment l'entendre. Mais j'espère que vous saisissez ce que je dis. Mais à ce moment-là, j'ai prié, j'ai recherché, et je me souviens, là où j'étais, je parlais au Seigneur, et je demandais au Seigneur, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'était un moment très important de ta vie. Si je peux le dire, c'est le moment le plus important de ta vie. Chercher vraiment la direction de Dieu pour ta vie. Et quand Dieu me parlait d'une manière que je m'attendais le moins. Et aujourd'hui, c'est toujours nouveau, c'est quelque chose, à chaque fois quand je repense à ça, c'est toujours comme quelque chose de nouveau. Et pensez un peu que lorsque Dieu pense à vous parler, vous qui n'êtes rien, vous qui êtes indigne, vraiment, ça vous touche et ça vous amène vraiment à être humble et vous pleurez. Vous dites vraiment, Dieu pense à moi qui ne suis rien. Ce que la chorale a chanté est si important pour notre vie. Le livre, ce livre qui nous guide. Ce matin, j'aimerais lire dans 2 Rois, chapitre 23, au verset 1. Vous savez, lorsque j'ai lu cela, il y a quelque chose qui m'a touché. Vous savez, très souvent, dans la vie, nous nous engageons. Mais nous ne nous engageons pas complètement et on ne coupe pas complètement avec le passé. Et je me suis dit, regardons un peu à la vie de Josias qui est devenu roi alors qu'il avait 8 ans. Si Dieu veut que tu fasses quelque chose, alors fais-le de tout ton cœur. Ne sois pas retenu par quoi que ce soit et ne sois pas vraiment troublé par ce que les gens disent. Vous savez, lorsque je suis venu à la mission, il y avait des moments que je pouvais en voiture, passer du temps avec le révérend Erlo sur la ferme. Un jour, je lui ai dit, révérend, tu sais, lorsque je fais quelque chose et que je suis occupé à faire quelque chose, cette personne vient, cette autre personne vient et ils ont des conseils. Et ensuite, je me retrouve entre ces personnes-là. Et vous savez ce que c'est? Quand cette personne-là ou une autre personne vient avec ses idées, vous êtes vraiment au milieu de tout cela, vous ne savez que faire. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, Didma, laisse les oiseaux chanter. Laisse les oiseaux chanter. Laisse-les, mais toi, occupe-toi de faire ce que tu dois faire ou ce que tu as à faire. En particulier, lorsque tu veux marcher sur ce chemin. Vous savez, des fois, c'est que les choses ont l'air de venir de tous les côtés et souvent des personnes que tu espères le moins. Mais il a dit, reste fidèle dans ce que Dieu t'a appelé faire. Prions ensemble. Seigneur, voilà ici ta parole qui a été écrite il y a plusieurs années en arrière. Mais c'est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous te prions afin que tu la bénisses. Ça a été parlé dans la faiblesse humaine, mais à travers ton Saint-Esprit, accorde la vie à travers elle. Seigneur Jésus, nous te le demandons cela en ton nom. Amen. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Verset 4. Le roi ordonna à Hilkia, le souverain sacrificateur, au sacrificateur du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qu'il avait et qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du cédron et en fit porter la poussière à Bethel. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la purification du temple. Et je vais le dire aussi de cette manière, nous sommes le temple de Dieu. C'était un temps difficile pour Juda et Jérusalem en ce temps-là. Il y a eu beaucoup de rois, des rois méchants, très méchants, qui ont entraîner Juda et Jérusalem dans le péché. Si une nation, écoutez, ne s'incline pas et s'accorde aux lois de Dieu, alors à ce moment-là, il y aura des conséquences qui vont s'en suivre. Et les leaders de cette nation ou de toutes les nations portent une grande responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu ne pouvait pas ignorer et négliger le peuple ou très longtemps, plus longtemps, le péché de son peuple. Dieu ne ferme pas ses yeux au péché ou à une certaine méchanceté. Mais il réagit par rapport à cela. C'est juste pour aider les enfants qui se baladent derrière. On demande à ce que on les organise un peu, qu'on en prenne soin. S'il vous plaît, que les parents prennent soin de leurs enfants comme oncle Arlo nous a dit que vous devez prendre soin de vos enfants. Vous devez toujours les avoir à côté de vous et vous devez savoir tout ce qu'ils font. Donc essayons de faire cela. Prochainement, essayez de le faire. Même si un enfant est âgé, il faut le faire. Et frères et sœurs, pourquoi chaque fois qu'on nous enseigne des choses, demandons-nous, mais pourquoi toutes ces choses-là ne marchent pas avec nous? Et Dieu a dit, je vais nettoyer Jérusalem et Juda comme on nettoie une assiette, un plat. Et je vais renverser Jérusalem sans dessus-dessous. Qu'est-ce que le Dieu vivant a ressenti vraiment de faire cela à son peuple? Et je pense que ça a été vraiment dur pour lui de faire une chose pareille. Et cela est arrivé après la mort du roi Josias. Plus tard, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est venu et a détruit complètement Jérusalem. Et tous les enfants de Jérusalem sont allés en captivité. Mais ici, il y avait un homme, disons un enfant, qui s'est retourné, qui allait contre ces mauvaises choses. Jeunes gens, c'est pourquoi j'ai commencé avec vous ce matin. Vous n'êtes pas trop jeune ou trop petit pour vraiment établir une différence pour notre Seigneur. Est-ce que tu t'es déjà agenouillé? En réalité, est-ce que tu as déjà prié en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est le plan que tu as pour ma vie? Pas seulement quand tu veux te fiancer ou que tu sens que tu veux te fiancer et te marier. Ça, c'est une autre partie de la vie. Mais concernant l'appel de ta vie, qu'est-ce qui est important pour toi? Et c'est comme ça que Josias il a commencé à mettre des choses en ordre et à reconstruire et à restaurer ce qui avait été affecté et détruit. Et à quel moment cela a commencé? Et ça a commencé lorsque le prophète a lu le livre au roi. Et lorsque le roi a entendu ce qui était le contenu du livre, il a déchiré ses vêtements. Et c'était là le départ pour le roi de se détourner de ces mauvaises choses-là. Lorsque le livre a été trouvé. Et c'était là le moment où il a fait demi-tour dans sa vie. Vous voulez atteindre quelque chose. Vous voulez peut-être atteindre certains objectifs dans la vie. Mais alors commencez dans ce que Dieu dit dans sa parole. Commencez avec sa parole, ce livre, et lisez la parole de Dieu et lisez ce que Dieu attend de vous. Et il a pris la parole au sérieux. Est-ce que Dieu t'a-t-il parlé cette dernière semaine? Dieu a-t-il pu toucher ton cœur? Lorsque Josias a entendu ces paroles, il a déchiré ses vêtements. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il a agi par rapport à ce que Dieu disait. Et cela lui a pris du temps de faire ce qu'il avait à faire. Parce qu'à travers sa parole, à travers son Saint-Esprit, Dieu agit dans nos cœurs. Je vais me répéter, est-ce que vous prenez du temps pour être seul avec le Seigneur Jésus? Et Josias a pleuré devant le Seigneur parce qu'il a vu la grande méchanceté qui existait. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Il dit, voilà, le Seigneur lui a dit, tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Il dit, j'étais aussi entendu, dit le Seigneur. Vous savez, Dieu, notre Père au ciel, il a réagi par rapport à l'humilité de Josias, par rapport à ses pleurs vers lui, Dieu a agi en sa faveur. Il ne s'est pas limité par ce qu'il a lu et ce qu'il a entendu. Avec Salomon, Salomon disait il dit que j'ai recherché celui que mon cœur aime, je suis arrivé vers les gardes, et lorsque je venais juste de les passer, je l'ai trouvé. Jeunes gens, nous devons retrouver le Seigneur dans sa sainteté et dans sa grande force, dans sa puissance. Vous pensez que tout ça se limite qu'avec ton conseiller et que j'ai accompli ce que je dois faire, alors sans doute, de savoir que tu es comme tu es. Et Dieu veut que tu viennes à lui, que tu déchires tes vêtements. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie. Tu sais ce qu'il te manque dans ta vie. Tu sais ce que tu caches. Mais et tu penses que tout doit se passer qu'avec ton conseiller, mais tu as besoin de passer du temps avec le Seigneur, d'entendre le Seigneur te dire, mon enfant, j'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu tes prières. Josias avait besoin du souverain sacrificateur, j'espère que vous comprenez. Mais Dieu a dit, Josias, le jour que tu t'humilieras, le jour que tu t'es humilié, que tu ne t'es plus retenu et que tu étais ouvert avec moi, j'ai entendu tes pleurs. Pensez à cela. C'est pourquoi sa vie a changé. Dieu a changé cela. Il n'a pas que pleuré. Dites-moi, à quand était la dernière fois que tu as pleuré devant le Seigneur? Dis-moi en réalité, à quand était la dernière fois que tu as pleuré devant le Seigneur, que tu t'es humilié, pleuré devant le Seigneur au point où le Seigneur a reçu ta prière ou tes pleurs? Alors il n'y a pas de doute de te voir dans l'état que tu es. Alors il n'y a pas de doute de te voir tourner en rond. Qu'est-ce que Dieu dit de toi aujourd'hui? Lorsque Dieu commence à agir, il te corrige, il te redresse. Ce n'est pas là que ça s'arrête. Il rebâtit à nouveau ce temple. Ce qui a été enlevé, il remplace cela avec ce qui est à lui. Ses meubles, et c'est comme ça que Dieu veut faire avec quelqu'un qui est prêt pour lui. Il te corrige, il te redresse, il t'attend afin que tu viennes. Et à ce moment, il va commencer à reconstruire, à rebâtir ta vie. Et Dieu a commencé à agir. On a toujours pensé aux autres. Qu'est-ce que lui doit faire? Qu'est-ce que cette personne doit faire? Mais quelle était la dernière fois que tu es allé à genoux et tu as prié au Seigneur et tu as plaidé avec le Seigneur et que tu as pu aller vers ton conseiller ou peu importe qui c'était, que Dieu m'a montré que j'ai caché cette chose longtemps dans ma vie et cette chose est mauvaise et j'ai tourné en rond et j'ai toujours eu peur d'apporter cette chose à la lumière. En revenant au texte, et le roi et les gens ont fait une alliance. Ils ont pris une décision en disant, « Seigneur, moi et le peuple, nous allons te suivre. » Ce que tu dis dans ton livre, nous allons nous accorder. Et c'est comme ça que le roi s'est approché du souverain sacrificateur Hilkiah et l'a appelé. Vous savez, mes amis, nous avons besoin des autres dans notre vie. Chaque personne a besoin des autres, mais nous avons besoin des bonnes personnes autour de nous. Le roi David, il était là. Et Dieu lui a envoyé quelqu'un vers lui. Et dans notre vie, c'est pareil. Dieu envoie les gens vers nous pour nous aider, pour nous assister dans nos moments de besoin. Vous ne pouvez pas vous échapper de cela. Ces jours, j'ai lu une parole. Et c'était une parole profonde. Le Seigneur a dit à ses disciples, il leur a dit que ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Vous voyez l'importance de ce que Dieu a mis sur eux. Toi qui dis que tu es disciple, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce à quoi tu as été appelé et quel est ton appel? Ce que tu lis sur la terre, donc en d'autres termes, ça veut dire que celui que tu pardonnes sur la terre, il est pardonné au ciel. Donc il y avait vraiment quelque chose, un appel important, quelque chose d'important que Dieu a mis à placer sur ses disciples. Si on n'avait pas besoin des autres, Dieu n'aurait pas dit cela à ses disciples. Alors si Josias n'avait pas besoin des autres, Dieu n'aurait pas envoyé le roi Hilkia pour l'aider. Nous avons besoin des autres, c'est un travail d'équipe que nous faisons. Josias a dit au souverain sacrificateur, il a dit, « Va, commence au bon endroit qui est le temple. » Il dit, commence là, commence à mettre des choses en ordre là. Et cela a touché mon cœur lorsque j'ai lu ce que le souverain sacrificateur a fait. Si vous avez du temps, lisez ce chapitre. Il n'a pas que nettoyer le temple ou purifier le temple. Il n'a pas seulement enlevé ce qui était mauvais. Il n'a pas seulement déplacé ça dehors. Mais la Bible dit que il a brûlé cela jusqu'à ce que il a brûlé cela jusqu'à ce que ça devienne poussière et cendre. Et c'est le secret que Josias avait reçu, que ce qui était mauvais. Josias a pris toutes les idoles, mais je pense que tu connais ce qui est idole dans ta vie. C'est pourquoi ta vie ne déborde pas, c'est pourquoi les fleuves d'eau vive ne coulent pas de ta vie. Souvent, nous allons confesser nos péchés, après le jour suivant, nous les reprenons, nous les remettons dans notre vie. Mais ce souverain sacrificateur, Hilkia, a dit que ça ne suffit pas de sortir seulement les choses dehors, mais que les laisser là dehors. Il a dit que ça ne suffit pas. Il a dit, il est mieux pour moi de les brûler. Très souvent, nous avons le culte du feu ou le service du feu. lorsque les gens veulent se séparer de certaines choses, il les amène et on les brûle. Le souverain sacrificateur a pris ces choses, les a sorties et il les a complètement anéanties, brûlées. Et pas seulement ça, il a pris aussi la cendre et a mené tout cela à Bethel. Bethel est l'endroit, le lieu où toute l'idolâtrie a commencé. Donc ça ne suffisait pas seulement de les écraser, de les détruire, de les brûler. Et c'est ça le secret de notre vie chrétienne. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Ramène ces choses d'où elles appartiennent. Plusieurs fois, les gens échouent, ratent. En particulier, ou en particulier quand quelque chose te concerne personnellement, à ce moment-là, on échoue. Quand quelqu'un veut t'aider, veut te redresser, tu te fâches, tu t'irrites, tu dis pourquoi tu veux me discipliner, tu connais qui je suis. La personne va dire, mais il ne voit pas que c'est mon travail et il ne me respecte pas et ils veulent faire les choses comme ils veulent. Hommes et femmes, allez en profondeur. Ça veut dire, vous devez repartir à Bethel, détruire tout ce qui est mauvais dans votre vie. Vous êtes très sensible. Et si quelqu'un vient t'aider, il veut te corriger, laisse Dieu le faire. Dieu est simplement en train de mettre cette chose sous son pied pour l'écraser jusqu'à la poussière. Et tu luttes contre Dieu. Tu luttes contre Dieu. Vous voyez seulement que c'est l'être humain qui vient alors que c'est Dieu qui écrase cette chose. Et vous savez quoi? Et tu te retires, tu te braques. Et Dieu dit, la parole Dieu dit que Dieu n'est pas pour ceux qui se retirent. N'aie pas pitié de toi-même. Laisse le pied de Dieu écraser cette chose en poussière et que cette chose reparte là où elle appartient. Et c'est l'enfer. Sinon, c'est toi qui vas repartir, qui va aller en enfer. Pourquoi Dieu fait ça comme ça? Pourquoi Dieu fait comme ça? Non, Dieu va traiter avec toi ces choses dans nos vies dans une manière qu'on ne s'attend pas. Je vous ai dit que Dieu m'a parlé quand j'étais plus jeune de façon que je ne m'attendais pas. Et Dieu peut utiliser les gens et ça peut être de manière vraiment qui n'a vraiment pas de sens pour toi. Mais incline-toi, c'est Dieu qui est en train de le faire. Il est en train d'écraser ces choses dans ta vie. Tu as eu des amis. Où sont-ils aujourd'hui? les gens avec qui tu t'entendais très bien. Peut-être Dieu t'a parlé déjà très longtemps. Il te dit, ôte ces choses de ta vie. Enlève ces choses de ta vie. Ce ne sont pas des bonnes choses. Et tu es difficile et tu les gardes. Mais quand les choses maintenant se passent, tu es toujours le premier à pointer du doigt. Josias pouvait s'irriter, pouvait se fâcher. Pourquoi cela? Je suis encore très jeune. Ça semble impossible. Oh, ils ne comprennent pas. Ce sont mes amis. J'ai encore besoin d'avoir un contact avec eux. Contact avec eux, alors que tu sais qu'ils sont sur le mauvais chemin. Ah oui, il n'y a pas de doute de voir comment ta vie est en ce moment. Et tout ce qui est petit, qui se passe, peu importe où c'est, que ce soit en brousse, que ce soit à l'usine, que ce soit quelque part, et tu te fâches, tu t'irrites. Tu sais pourquoi tu t'irrites? Parce qu'il y a des idoles dans ta vie qui se cachent là. Et peut-être Dieu a dit, sors ces choses, amène-les dehors, je ne les aime pas, je ne les apprécie pas. Et tu cherches toujours à t'excuser. Pourquoi ces choses doivent être là? Oh, j'aime mon enfant. J'aime mon enfant. J'ai des préférences. Je suis la mère. Je suis la grand-mère. Dieu ne considère pas à toutes ces choses. La question est celle-ci. Est-ce que tu t'es séparé de tes anciens amis avec qui tu volais, que tu menais une mauvaise vie? Est-ce que tu as porté ces choses à la lumière? Est-ce que tu as ramené ces choses que tu as volées? C'est pourquoi ta vie est comme elle est aujourd'hui. Tu veux toujours aller de l'avant, mais c'est comme s'il y a une corde, une ficelle qui te retire toujours en arrière. Et c'est parce que tu n'as pas encore pris cette corde et la brûlée jusqu'à ce que ça devienne poussière et la ramener là où elle appartient. Et en disant que je me sépare de ces choses maintenant et je ne repartirai plus vers ces choses. Pour nous, c'est un exemple, mes amis, pourquoi très souvent nous avons du mal à nous séparer de certaines choses parce que nous n'avons pas encore traité ou nous n'avons pas encore détruit ces choses complètement dans nos vies. J'aimerais vous dire l'histoire de mon grand-père. Nous l'aimions. À la fin de sa vie, il aimait le Seigneur. Et j'ai eu vraiment le meilleur de son héritage, qui est sa Bible. Vous savez, mes amis, vous savez pourquoi je parle comme je parle. Si vous lisez sa Bible, quand vous lisez sa Bible, vous ouvrez sa Bible, il faisait toujours les études bibliques. Et à chaque fois, quand le Seigneur lui parlait, il allait toujours vers les autres, venait entendre ce que le Seigneur m'a dit. Allez, est-ce que vous aussi vous pouvez le faire? Allez, annoncer ce que Dieu vous dit aux autres. Dieu recherche des personnes qui sont vivantes, qui ont le feu de Dieu dans leur vie. Mais il n'y a pas le feu de Dieu dans la vie des gens. Mon grand-père, il quand il fumait, il utilisait la pipe. Et il aimait sa pipe. Jusqu'au jour où le Seigneur a commencé à toucher sa vie par rapport à cela. Et Dieu l'avait convaincu de son tabac. Et il a dit, bien, si c'est mauvais, je prends cela. Alors, il est parti dans son jardin, il a creusé un trou, il a enterré cela. Il a dit à l'église qu'il appartenait en ce temps-là. Il a dit, voilà ce que j'ai fait, Dieu m'a parlé, et j'ai enterré cette chose, et c'est parti. On avait un enseignant à l'école qui fumait la pipe. Quand il avait fini, il mettait ça dans sa poche. Vous savez, aujourd'hui, quand on pense à cela, c'était vraiment, on s'imagine à ça, c'était vraiment une honte. Et je me dis que vraiment, sa veste, vraiment sentait vraiment le tabac à chaque fois qu'il l'a caché dedans. Donc, mon grand-père a dit, j'ai enterré cela et c'est fini. Le même jour. Il avait vraiment, ce même jour, il avait vraiment encore cette envie de sa pipe. C'était vraiment une lutte. Est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas? Mais j'ai enterré cela, c'est fini. Et plus tard, la lutte était encore plus forte et a pris le dessus sur lui. Il est reparti au jardin, il a recreusé le trou, il a pris la pipe, il l'a nettoyé, il a encore fumé. Imaginez-vous ce qu'il a vraiment ressenti. Pouvez-vous imaginer ce qu'il a ressenti? Et Dieu, il s'est rappelé, il a dit, mais qu'est-ce que cela m'aide d'enterrer ça seulement? Et à la maison, on avait des toilettes à long trou. Et il s'est dit, mais si Dieu m'a aidé, comment je peux repartir vers cette chose? Il a pris cette pipe, il a jeté ça dans cette toilette à long trou. Et c'était la dernière fois qu'il avait fumé. Mes amis, c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Si nous ne sommes pas nous n'avons pas vraiment pris la résolution en disant « Seigneur, aide-moi ». Vous ne savez pas, vous ne vous imaginez pas que peut-être il arrivera un temps, vous allez tomber et peut-être vous n'allez plus jamais vous relever. Et mon grand-père a pu se relever à nouveau. Et avec toute une sincérité et honnêteté, il a pu dire que voilà, enfin c'est fini, c'est parti. Et quelque temps après cela, il est venu ici à la mission et il a appelé le révérend Stegen. Il a dit, viens. Il dit, j'ai cinq arbres ici. Et ces arbres étaient plantés du côté de l'entrée de l'école. Il a appelé le révérend. Il a dit, voilà que tu sois témoin. Je vais planter ces cinq arbres. Et le nombre cinq représente la grâce. Que je plante ces arbres aujourd'hui et ça veut dire que je ne vais plus repartir en arrière dans mon péché. Il y a cette grâce, ce témoin que je change et je ne veux plus repartir en arrière. Pourquoi je dis toutes ces choses? Parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Et il trouve des personnes qui ne se sont pas encore séparées de leur péché. Ilkia nous montre l'exemple de laver, de purifier. Que les gens écrivent à travers les médias tout ce qu'ils veulent, qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais cette chose que la Bible nous enseigne ne changera jamais. Lorsque vous purifiez et que vous lavez, et Dieu vous accordera le meilleur. Aujourd'hui, j'aimerais redire ce qu'on a toujours dit, mais je vais peut-être le dire dans un autre angle. Vous savez, mes amis, Jean, la pornographie, le satanisme, l'immoralité. Et en particulier l'immoralité, quand tu fais les choses de ta manière, en disant je vais faire les choses de cette manière ou de cette manière, alors tu permets au diable, tu donnes une porte ouverte au diable de venir pour se saisir de toi. Savez-vous combien de personnes sont saisies dans l'esprit de la pornographie, de l'immoralité? Et à ce moment, vous ouvrez la porte à quelque chose que vous n'avez jamais espéré. Et même en tant que des personnes mariées, que lorsque vous commencez à écouter ou à regarder ces choses, et vous commencez, vous n'imaginez pas la souillure que vous permettez à votre vie. Et vous commencez à faire des choses que les êtres humains ne doivent pas faire. C'est pourquoi spirituellement, vous n'avancez pas. Spirituellement, vous n'allez nulle part. Et plus tard, vous luttez. Plus tard, c'est la division. Pourquoi ? Quelque part, le diable t'a saisi, vous a saisi. Si vous ne vous détournez pas et brûlez ces choses jusqu'à la poussière dans votre vie, Et si vous ne vous détournez pas et revenir, plus de méchanceté vont s'accroître dans votre vie. Dans Matthieu 12, nous lisons, le Seigneur nous parle et nous avertit et nous met en garde que lorsqu'il nous a aidés et que le mauvais esprit est sorti et que si on permet aux mauvaises choses dans notre vie, alors l'état de cette personne-là sera pire qu'avant. Comment pouvez-vous amener d'autres meubles dans la maison quand vous n'avez pas encore détruit, brûlé jusqu'à la cendre les premiers meubles qui sont dedans? Lorsque vous avez fait ce que vous devez faire en apportant ça à la lumière, en apportant ça au Seigneur, le Seigneur à ce moment-là, va commencer à agir et il va remplacer maintenant avec ces choses dans la maison. Donc la parole de Dieu dit que voilà, la maison a été balayée, nettoyée, ornée, mais elle est vide. Et quand l'esprit impur revient, il voit, il repart, il va chercher d'autres esprits plus puissants que lui et l'état. La dernière condition de cette personne sera pire. Si les choses de Dieu sont remplacées comme il faut, à ce moment-là, le temple deviendra vraiment comme il doit être. À ce moment, tu dois prier en disant, « Seigneur, accorde-moi ton armure qui protégera ma vie. » Seigneur, s'il te plaît, aide-moi afin que ce qui est de toi, cet amour, cette patience qui vient de cette joie remplisse mon cœur. Quand je regarde en arrière, lorsqu'on était encore jeune, je remercie le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a gardés occupés avec ces choses. Vous avez un grand privilège d'être ici, peu importe qui tu es. Pourquoi ne veux-tu pas faire les choses pour le Seigneur, être occupé avec le Seigneur, les choses de Dieu, et permettre la grâce de Dieu de remplir ton cœur? Parce que le Seigneur est jaloux de son temple. Il est jaloux de son temple parce que ça lui appartient. Lorsqu'il était sur terre, il y avait une fois, lorsqu'il avait vraiment traité ou nettoyé le temple, dans le temple physique, il était vraiment drastique. Il a tourné les choses sans dessus dessous. Il a châtié. Et il a dit que ma maison est une maison de prière et vous avez rendu ça comme une maison de voleurs. Il a dit que ça doit être une maison de prière. Combien souvent on prie, que tu pries? Voilà, il n'y a pas de doute de voir que les choses du diable s'infiltrent dans ta vie. Si tu sers le Seigneur et que tu obéissant au Seigneur, les choses de Dieu vont grandir dans ta vie. et tu feras la différence dans ta vie. Ne sois pas paresseux. Ne doute pas. Si Dieu met quelque chose sur ton cœur, partage-le. Va vers le souverain sacrificateur. Partage-le. Dis, voilà ce que Dieu attend de moi, ce que je dois faire. Et c'est une bénédiction. Et tu vas grandir dans sa grâce. Mes amis, aussi important que c'est de purifier le temple de Dieu, cela est aussi important de meubler la maison de Dieu. Donc Josias et Hilkiah se sont accordés et ils ont détruit, ils ont brûlé, ils ont fait de telle manière et ils avaient détruit toutes ces choses afin que ces choses ne soient plus. Ils avaient détruit toutes ces choses afin que ça ne soit plus réutilisé. Et ce n'était pas la fin. Et Josias a dit à Hilkiah que nous devons maintenant célébrer la Pâque. Il a dit, Josias, nous devons maintenir la Pâque. Et une telle Pâque n'avait jamais été célébrée depuis le temps jusqu'à Josias dans Juda et Jérusalem. Et aujourd'hui, pour nous, notre Pâque, on se rappelle lorsque Christ a été crucifié. Et c'est lorsque nous venons à lui et qu'il peut nous purifier et que sa puissance va anéantir, détruire la puissance du méchant dans notre vie. Comment Dieu t'aidera-t-il si tu as encore ta pipe dans ta poche? Tu sais bien qu'elle est là. Alors prends la décision qu'il faut, détruis-la et ramène cela là où ça appartient. Et alors nous pensons à Christ qui a répandu son sang précieux pour nous sauver des liens de la méchanceté. Et Dieu ne commet aucune erreur. Et Dieu a dit à Josias, rétablis la Pâque, rétablis cela aussi dans ta vie. Garder ta vie pure, c'est la chose la plus importante à faire. Et pour t'aider, ne repars plus en arrière. Regardez la pornographie. Il n'y a pas d'excuse. Christ est venu pour détruire et pour restaurer et pour rebâtir. Permets-le de rebâtir ta vie. J'aimerais finir avec une histoire que j'ai lue il y a plusieurs années et j'ai regardé à ça encore ces jours. mais ça ressemble exactement à ce dont nous sommes en train de parler. Et cela est arrivé en 1950, en 950 après Christ. Cela s'est passé dans la nation allemande. Quand vous lisez ce livre et vous voyez comment ils ont vécu, vous vous dites, oh, ça a l'air de l'Afrique. Ça ressemble à l'Afrique. En ce temps-là, Dieu avait envoyé un missionnaire. Et ce missionnaire s'appelait Landorf. Deux missionnaires étaient venus avant pour les prêcher à cette nation, mais ils avaient été tués. Et encore, Dieu a démontré sa grâce en envoyant encore un autre missionnaire. Et Dieu a accordé à ceux qui l'habitent avec quelqu'un qui était vraiment, il avait une grande position. Il était juge, il habitait chez lui. Et cet homme, ce missionnaire a demandé au juge, est-ce que je peux parler à cette nation de l'évangile parce que je veux leur annoncer? Et ils se sont mis d'accord. Et en ce temps-là, l'homme de Dieu avait vraiment, il avait vu plusieurs choses. Et il y avait un endroit où il y avait un hôtel qui était fait de pierre. Lorsqu'il est arrivé là, il a vu, il a témoigné comment les gens étaient égorgés, étaient sacrifiés, les ennemis étaient crucifiés. Et il a dit comment la cruauté était régnait. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi leur Dieu, ils avaient aussi leurs idoles, pour ainsi dire. Leur Dieu était Valdo et Thor. Pour ainsi dire, ils avaient leurs ancêtres aussi, dont ils égorgeaient les gens comme quand quelqu'un égorge un bœuf. Après avoir égorgé, ils le jetaient dans un fleuve, ou une rivière. Et lorsqu'ils continuaient à marcher, ils voyaient que les gens prenaient l'alcool, ils étaient si ivre qu'on ne pouvait vraiment l'imaginer. Et vous savez, si vous adorez le diable, vous allez faire les choses contraires aux lois de Dieu. Et lorsqu'ils étaient sous, ils se battaient. Et lorsqu'ils se battaient, ils s'entretuaient. Et lorsqu'ils étaient morts, on les enterrait comme ça. Et c'était la vie d'une nation qui ne sert pas le Seigneur. Si tu ne sers pas Dieu et que tu sers d'autres dieux, tu vas finir en faisant des choses que tu ne comprends pas. Tu vas tuer les gens comme des mouches. Nous devons nous respecter les uns les autres. Nous devons nous comporter selon le Seigneur. Donc il est arrivé à un moment où Landorf parlait au leader. Il ne savait pas comment les choses allaient finir ou peut-être qu'on allait le tuer, mais il leur a dit. Il dit, si vous me tuez, vous allez expérimenter, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais reçu dans ta vie et la malédiction de Dieu tombera sur vous. Si les gens sont durs, souvent ils ont besoin des paroles dures. Et c'était la vérité qu'il disait. Et pour abréger cette longue histoire, on lui a donné l'accord. Il a dit, tu peux vivre au milieu de nous et tu peux prêcher. Et à ce moment-là, ils ont fini de parler au leader et le juge et Landorf sont repartis à la maison. Et alors qu'ils allaient à la maison, ils sont passés là où il y avait cet hôtel où les gens étaient sacrifiés. Et c'était vraiment un endroit spécifique pour leur rituel, là où ils adoraient le diable, leur Dieu. Et lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit-là, Landorf s'est tourné vers le juge. Il a dit, vois-tu cet endroit? C'est à cet endroit que je vais bâtir la première église. Et tout de suite, il a pris ses pierres, il a jeté ça dans le fleuve. Et le juge a dit, lorsque tu auras fini de construire cette église, il dit, je serai le premier à être baptisé. Il dit, pourquoi je le dis? Le diable était fort, mais Dieu, lui, il est tout puissant. Dieu a remplacé ces pierres-là par une église. Et plus jamais, ils ne sont repartis à cet endroit-là pour adorer leurs ancêtres. Dieu a frayé un chemin. Et ils avaient la bonne volonté de le faire. Ils ont enlevé ce qui était vieux et ils ont construit une église. Et l'église à cet endroit où Dieu, c'était témoin que Dieu a été victorieux sur la méchanceté. De la même manière, permettons à Dieu de construire quelque chose de nouveau là où le diable a été puissant, que Dieu... Permets à Dieu de travailler dans ta vie, même s'il doit t'écraser jusqu'à la poussière, ne résiste pas. Dieu sait ce qu'il fait parce qu'il veut construire son église, il veut construire son temple dans ta vie, mais il ne veut pas ta tête aussi dure. Il ne veut pas ta volonté, il veut construire sa maison, son temple, et permet-lui de le faire, et tu seras surpris de voir ce qu'il peut accomplir dans ta vie. Permets à Dieu de le faire, que son feu brûle jusqu'à la poussière, tout ce qui est mauvais. et qu'il travaille dans le temple. Ta vie doit changer. Ta vie doit être différente. Même à la maison, tes parents doivent voir que tu n'es plus pareil. Et lorsque tu as été occupé avec le temple, et va maintenant autour, une pièce après une autre, regarde la musique, les habits. Le téléphone portable. Regarde tout ce qui est dans la maison. Regarde à tout ce que Dieu n'apprécie pas. N'aie pas pitié que ça a coûté cher. Que je vais faire comment si Dieu te conduit, va vers le souverain sacrificateur. Dis voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens, je vois. Il y aura une bénédiction attachée à cela. Et souviens-toi, ce que tu délies sur la terre sera délié au ciel. C'est ça la bonne chose de travailler ensemble avec les enfants de Dieu. Jeunes gens, qu'est-ce que Dieu veut de ta vie? Je vous ai dit, ce que Dieu voulait de ma vie, c'était pour moi la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'il veut de ta vie? Et prie, Dieu va exaucer tes prières, il va le faire. Et tu vas voir comment, tu vas voir ce que Dieu peut faire. Vous voyez que avec une seule personne, Josias, avec une seule personne, Dieu a changé, a tout changé.
Allow me to hit one nail into the coffin of pornography.
Permettez-moi de donner un coup de clou dans le coffre de la pornographie. Je pense qu'on ne peut pas en dire suffisamment avec ça. Si avec la pornographie, si c'est ça l'idole dans ta vie, ça va alors entraîner l'envie du sexe dans toutes les situations de la vie. Le moment le plus innocent, le moment le plus simple, le plus innocent, à cause de la pornographie, on verra toujours une possibilité de sexe là-dedans. Jusqu'au point où on pourra se dire, mais comment sur la terre, cette situation-là, on peut vraiment penser au sexe avec cette situation? Donc, avec la pornographie, ce problème-là, et à cause de la pornographie, le diable va t'apporter l'image du sexe dans ta pensée, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, que ce soit partout, tu auras toujours cette image en toi. Si c'est ce qui se passe, qui joue dans ta pensée, sache que tu es esclave. Tu es esclave de l'idole de la pornographie. Si tu es assis à l'église et que tu dois batailler avec des pensées impures, sache ceci, que tu es esclave et tu es un adorateur de l'idole de la pornographie. Mais quelle était la solution ou la réponse qu'on a terminée avec? Je reviens maintenant à la réponse. Quand tu traites vraiment contre ce démon de pornographie et du sexe, et si c'est vraiment nécessaire, ôte-toi, débarrasse-toi de cette pipe qui est ton téléphone portable. Si cela est nécessaire, débarrasse-toi de cela. Oui, je sais, c'est comme si on perd sa main droite. Et le Seigneur a dit, si c'est ce qui te cause problème, alors coupe-le ou arrache ton œil si c'est ce qui te cause problème. Et si tu le fais, tu vas commencer à voir l'opposé s'accomplir. Dans des situations impures, Dieu va apporter des pensées pures dans ta pensée. Tu marches en ville, tu peux voir peut-être un magazine, pire des magazines, souillé, mais tu vas voir que la sainteté de Dieu va remplir ta pensée, ton cœur, au point où ces choses ne remplisseront pas ton cœur. Au lieu d'amener le sexe dans des moments normaux, mais toi avec Dieu, tu vas entraîner la sainteté dans chaque situation de ta vie. Afin que ton cœur soit saint, soit afin qu'il soit le temple de Dieu, là où Dieu habite. Et c'est là aussi que les anges peuvent voler et annoncer saint, saint, saint est le Tout-Puissant Dieu. Permet à Dieu de le faire. C'était ça, la supplication ou la requête du message de ce matin. Prions ensemble. Nous te disons merci de ce que tu as mis en défi la méchanceté. Merci pour ta patience et ta miséricorde. Et que tu as la bonne volonté de marcher avec chacun de nous dans ce monde et à faire face à cette bataille jusqu'au point de la victoire. Oh, combien, Seigneur, tu es précieux. Quand je considère ta patience avec moi, là où tu m'as sorti, patiemment, tu insistais dans ma vie sur la sainteté jusqu'à ce que j'ai abandonné mon entêtement. Combien cela est possible, Seigneur, que tu es prêt à marcher ce chemin avec des milliards de personnes qui même sont contre toi. Mais voilà qu'une fois encore, tu nous appelles encore à cette vie, Seigneur. Et si tu trouves parmi nous les gens têtus qui ont vraiment une tête de cochon, qui veulent toujours suivre leur chemin, S'il te plaît, Seigneur, par ton Esprit Saint, convainc-les de leurs péchés, afin qu'ils s'inclinent devant ce message de repentance. Et que l'âme sorte de cette réunion après avoir répondu favorablement à ton appel, de se soumettre à l'action de ton Saint-Esprit et à réagir favorablement à ton appel et de venir à toi et de suivre l'exemple de ce roi, de se débarrasser de la méchanceté et de notre vie et de te permettre de créer la sainteté en nous. En Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen.